France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager avec les cultures du monde dans cette déclinaison de la librairie francophone avec des auteurs et des artistes. Aujourd'hui, nous irons dans un lieu insolite de Bruxelles avec Philippe Geluck, à Montmartre, au cœur de Paris, avec la Québécoise Diane Tell, à La Réunion, à proximité des Champs de Cannes, dans un petit village, avec les bédéistes Apollo et TM, et nous serons en plateau avec Daniel Pénac. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener comme ça un peu partout dans le monde.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Kérad.
Et on commence cette émission avec la confidence, une petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Régis Geoffrey qui s'est confié pour la version télé de la librairie francophone diffusée chaque mois sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3 et ici RTV de Radio-Canada. Voici le son de sa confidence. Régis Geoffrey, quelle est votre confidence pour la librairie francophone?
C'était en mars, c'était la nuit tombée, je conduisais. Au loin, j'aperçois une ambulance avec son gyrophare. Et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui débouche, qui arrive droit sur moi. J'ai su que j'allais mourir, même si après, je ne suis pas mort. Ouais. Et je me suis dit que c'était décevant, comme si j'avais raté une séance de cinéma, de mourir. Et puis, il y a eu comme un zoom arrière. Je me suis retrouvé très loin de la Terre. J'ai vu ma vie toute petite et la Terre toute petite. Et il m'a semblé que je retournais dans cette vie qui était éternelle et que, en fait, la vie que j'avais menée sur Terre était une petite partie de cette vie. Je n'en pense rien. Ça s'est passé comme ça.
Et vous en pensez quoi, du coup, maintenant?
Rien. Je sais pas. Je sais pas si c'est un phénomène du cerveau, un phénomène mental, ou si c'est une réalité. Je n'en ai strictement aucune idée. Je vous ai donné les choses telles qu'elles se sont produites.
Bon, merci, Régis Geoffrey.
Merci à vous.
Après cette confidence inédite de Régis Geoffrey, notre séquence nommée Le Voyage Immobile, que vous retrouvez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe, un lieu choisi par une personnalité, lieu qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Un nouveau voyage immobile avec aujourd'hui un artiste complet qui aime bien les gros chats. Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour Emmanuel.
Les gros chats, oui, c'est vrai, un peu.
Oui, enfin, j'aime encore mieux les gens, vous savez. Mais quand il y a un gros chat qui passe, je le salue bien confraternellement.
Normal. Bon, le principe de cette séquence, donc vous l'avez compris, c'est de voyager, de faire voyager les auditeurs à partir d'un lieu proche du lieu de résidence de notre invité, donc pas très loin de chez vous. Vous avez choisi le palais de Charles de Lorraine à Bruxelles, où nous sommes en ce moment. Et nous sommes dans la cour du palais, Philippe. Décrivez-nous ce qu'il y a là.
Alors, dans cette cour, il n'y a rien, il y a quelques voitures. Je ne comprends même pas qu'on y autorise de se garer. Ici, c'est un endroit qui est absolument, je parle un peu plus bas, parce que on est hors du monde. Les Bruxellois ne connaissent pas cette place. Les touristes n'y vont pas, parce qu'il n'y a rien à voir, sinon des façades. L'intérieur du palais est en réfection. Et en même temps, il symbolise tellement Bruxelles, alors de par l'occupation autrichienne, mais aussi Bruxelles. Bruxelles qui s'est auto-flagellée, auto-démolie pendant des décennies. Le terme bruxellisation est un terme d'architecture, hélas, devenu international. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire à une ville. Et ce palais...
Parce qu'il y a un vrai mélange, hein, c'est ça.
Ce palais qui, dit-on, a été admirable, il n'en reste qu'un tiers. Figurez-vous que ces imbéciles de promoteurs ont décidé, au XXe siècle, d'abattre deux tiers de ce palais. Et il n'en reste rien. Et ils étaient fiers, ces cons. Bon, ce qu'ils ont laissé est admirable, et l'intérieur, pour ce que j'en ai vu, est absolument éblouissant. Mais on se dit qu'on a détruit des joyaux dans Bruxelles, et ce sont des blessures irréparables.
Alors là, du coup, on a un palais avec des façades blanches. C'est très... carré, très rectangulaire, des pavés évidemment en sol, des balconnets en façade. Voilà, c'est le siècle des Lumières.
Voilà, c'est une architecture issue du siècle des Lumières. Et elle se marie bien à l'architecture néoclassique de la place Royale, qui lui forme un ensemble absolument homogène, qui a été préservé. Enfin, quand, au moins, quand il y a marqué Royal sur un truc, ils ne le démolissent pas tout de suite.
Oui.
Bon, il y a, même le couscous royal est respecté à Bruxelles.
Oui, tous les restaurants, il y a marqué couscous royal, ça passe.
Ça, on ne touche pas, on ne touche pas. Et, alors, et les patrons de ces restaurants sont anoblis, évidemment. Et donc, c'est, si on se met à regarder, c'est ça qui est passionnant dans l'architecture, c'est d'aller regarder les détails.
Bon, de ce palais, Philippe Geluck, on part dans un autre lieu que vous allez nous décrire à distance. À quel autre lieu vous fait penser le palais de Charles de Lorraine ? On part où, là, Philippe ?
Mais alors, j'allais dire, nous nous envolons, mais non. Il faut plus prendre l'avion pour des petits trajets en Europe. Nous allons prendre le train. Et je vous assure que c'est pas très facile, il n'y a pas une ligne directe Bruxelles-Vienne. Mais c'est à Vienne que ça m'avait pensé, où je me suis promené l'année dernière, où j'ai visité des musées passionnément, où j'ai vu les Bruegel, les tableaux de Bruegel achetés par les Autrichiens, alors qu'on en a encore un et demi chez nous dans nos musées, et que le type est d'ici tout de même, Bruegel, il était enterré à Bruxelles. Vous savez comment il est mort ? C'est peut-être une légende, mais je trouve ça tellement joli. Il a voulu un jour, il était âgé, il a voulu voir Bruxelles à l'envers. Et il a fait le poirier. Et il est tombé sur sa tête et il est mort.
Mais non.
Mais oui. Et c'est tellement joli. Si, comme disent les théâtiens, c'est non est vera et bella. Si elle n'est pas vraie, elle est belle, l'histoire. C'est comme ça qu'il serait mort.
Alors justement, quand vous êtes à Vienne, Philippe Geluck, qu'est-ce que vous voyez ? Vous m'emmeneriez où ?
Je vous emmènerai voir tous les musées. Je crois qu'en 3 jours, j'ai vu 18 musées. Je me suis gavé de musées. J'ai pleuré devant un Jérôme Bosch. Si j'avais une loupe, j'aurais tout regardé jusqu'au moindre détail. Bosch est vraiment l'inventeur du surréalisme. Puis il y a des musées d'art moderne et puis
c'est un peu comme ici, quoi. Parce que là, juste derrière, on a le musée Magritte. Et un peu plus loin, si on va vers la gauche, qu'on passe la place Royale, Philippe, vous me voyez arriver.
Oui, mais prenez votre temps, parce que je vous vois arriver au musée du chat.
C'est ça.
Si vous vous mettez en route maintenant, vous arriverez 3 ans avant son ouverture.
Mais c'est ça, parce qu'on avait fait une émission ensemble, vous vous rappelez ? Il y a 2-3 ans, on va dire.
Je me souviens bien. Mais alors, entre-temps, parce que...
On annonçait l'ouverture du musée du chat. Et là, le musée du chat, bah, c'est l'Arlésienne, quoi.
Bah, je l'annonce toujours pour 2023. Oui. Alors, vers 2023-2024.
2030, quoi.
Non, parce que je serai encore vivant quand je...
Vous serez vivant en 2030, arrêtez.
Je sais pas, on va voir.
Mais
on va
si.
Voir. Oui, enfin, je fais tout ce qu'il faut. Hein, pour... Alors, par contre, je peux vous dire pourquoi nous avons pris 2 ans dans la vue. Parce que le Palais des Beaux-Arts, qui sera notre voisin, a demandé de creuser 2 sous-sols supplémentaires pour pouvoir créer des dégagements et des salles de stockage à côté de ces grandes salles. Et nous avons là une occasion historique de leur céder du volume sous nous. C'était maintenant ou jamais, et donc mon grand cœur a fait que j'ai dit messieurs,
bon,
les Anglais.
Bon, on sera là, Philippe.
Les premiers.
On sera là pour l'inauguration.
Oh, ben, j'espère bien.
J'espère qu'on sera là aussi encore.
Ben, j'espère que vous ne serez pas retraités des radios publiques.
Non, quand même. Pas à mon âge.
Licencié.
C'est impossible.
Voilà. Peut-être que les radios publiques auront été privatisées. Enfin,
tout est possible.
Faut tout
vous savoir. Depuis quelques mois, là.
Faut s'attendre à tout.
Bon, merci beaucoup, Philippe Geluck.
Merci.
C'est toujours surréaliste avec vous, mais c'est ça qui est génial.
Nous sommes à Bruxelles, ne l'oubliez pas. Merci Emmanuel. Bon tour de la francophonie alors.
Merci beaucoup pour ce voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Qu'est-ce que vous faites cet été ? Vous préparez un chat, je crois, qui est presque terminé, qui sortira en octobre.
Oui, en fait, je l'ai préparé. J'ai mis à profit la crise du Covid.
Voilà.
J'ai préparé un album du chat qui sera le 23e, qui va s'appeler « Le chat est parmi nous ». En toute simplicité.
Bien sûr.
Il descend parmi nous. Et parmi nous, vous avez compris le double sens.
Minou.
Oui, bien sûr. Et honnêtement, je l'ai relu, là. Et il est plutôt bien.
Il vous plaît.
Oui, et bon. Il plaît à ma femme, qui est ma première lectrice.
D'accord.
Mon juge le plus impitoyable.
D'accord. Pourquoi on arrête cette séquence, Philippe, là ?
Quoi, vous n'avez pas...
C'est un peu long, là.
Ça va être les informations.
Non, pas encore.
Mais alors, c'est un peu de votre faute, ne me posez pas autant de questions. Au revoir, Emmanuel.
Bon, on vous retrouve à la rentrée, en tout cas, pour le chat. Merci, Philippe Geluck. À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien avec Daniel Pénac et un reportage à La Réunion avec 2 auteurs de BD stars sur l'île, Apollo et TM. Nous en emmené sur les hauteurs de Saint-Joseph. Avant cela, voici le nouveau titre de Benjamin Biolay.
J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas.
C'était le nouveau titre de Benjamin Biolay. Comment est ta peine? Sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Et Daniel Pénac est en plateau avec nous.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Alors Daniel Pénac, vous publiez La loi du rêveur chez Gallimard, un livre étrange qui convoque vos rêves, qui rend hommage à Fellini, qui raconte l'amitié fusionnelle, mais tout est à moitié vrai ou tout est à moitié faux, c'est comme on veut, on ne sait pas où on va et du coup, on ne peut pas raconter grand-chose sans gâcher la surprise pour vos lecteurs. C'est un rêve ce livre, Daniel. Ça le fait rien.
Je suis très heureux que vous ne sachiez pas où vous allez.
Ouais, vous êtes espiègle, Daniel.
En effet, il est impitchable. On ne peut pas le résumer facilement. Il y a 36 000 façons d'y entrer. Le narrateur, qui est peut-être moi-même...
Ou peut-être pas.
Ou peut-être pas. Il vit arrivé quelque chose de très étrange dans son enfance. Il a subi une inondation de lumière. La veilleuse, quand il était petit, on sait qu'il... Paf, pété, et la lumière liquide s'est écoulée de cette veilleuse et a inondé sa chambre. C'était une lumière sans rayon, une lumière qui avait cessé de rayonner. C'est un peu triste comme ça. Complètement affolé, évidemment, il sort de sa chambre, il se précipite dans la maison. Et là, à sa grande stupeur, il s'aperçoit que la maison entière est inondée, que le téléviseur lui-même éventré lâche comme ça une espèce de lumière multicolore où les visages se distendent silencieusement. Il cherche ses parents, n'y sont plus, son meilleur ami qui dormait dans le lit jumeau à côté du sien n'y est pas non plus. Il décide de fuir cette maison et de sauter par la fenêtre de ses parents en ville. Et là, il s'aperçoit que l'inondation est absolument général.
Voilà, à cause d'un barrage qui aurait cédé, sauf
on
que là
pas,
c'est de la lumière.
On ne sait pas exactement.
Et ça, c'est un rêve. Et ça, là... on peut le dire déjà. Parce que c'est.
Oui,
c'est,
on peut dire. La question est de savoir comment est-ce qu'un phénomène pareil peut avoir lieu et comment m'en suis-je sorti.
Non, mais ça, c'est absurde, Daniel. La lumière qui coule, on sait que c'est un rêve.
Pas quand vous êtes dedans.
Oui.
Quand vous êtes dedans et que la lumière coule. Vous êtes absolument persuadé de la réalité de la chose, puisque ça vous arrive. C'est la particularité des rêves. La particularité des rêves, c'est que ils imposent un sens, une vérité d'être à nous au moment où nous les faisons, qui nous sidèrent absolument quand nous nous réveillons. N'empêche que quand on y est absolument.
Alors, ce sont des histoires d'enfance, ça, Daniel. Vous racontez d'ailleurs votre histoire avec votre meilleur ami, Louis. Je vais pas trop en raconter, mais on a l'impression que vous le fantasmez, finalement, ce meilleur ami. Parce que l'amitié, elle est fusionnelle. Elle est magnifique dans votre histoire. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je dévoile trop de choses. Mais vous me mettez dans l'embarras, hein, Daniel.
Vous dites ça parce que vous avez lu le livre en entier.
Oui, bah oui, quand même. Un minimum, non? Comme tout le monde.
Mais le principe, c'est que dans la continuité du livre, le lecteur doit se laisser porter à l'état des lieux tel qu'il est au moment où il est à telle page et telle ligne, et se laisser aller, puis petit à petit, en effet, le sens s'installe. Ouais. Hein,
mais les histoires d'enfants, Daniel Pénac, elles relèvent du rêve aussi. Ces enfants-là, ils imaginent des histoires, ils rêvent des réalités.
Ben, ils sont en construction, ce sont des enfants. Ils sont en construction, les enfants sont en construction par le récit. Les enfants commencent très vite, ils racontent des histoires. Mais les adultes aussi. Qu'est-ce qu'un amour sans une histoire d'amour? Dès que deux adultes se rencontrent, dès le lendemain, ils commémorent leur rencontre de la veille. Ils se la racontent, ils disent « Tu te souviens, hier, quand tu m'as embrassé pour la première fois ?» Immédiatement, on est dans le récit. Vivre, c'est construire des récits dont on espère qu'ils justifieront notre vie. Mais ça date de l'enfance jusqu'à la maturité.
Mais vous êtes un dormeur, lapsus, mais c'était ça en fait. Vous êtes un rêveur dormeur ou un rêveur éveillé, Daniel Pénac?
Quand je dors et je rêve. Mais comme je tiens le journal de mes rêves depuis très longtemps, il y a une espèce de curiosité seconde qui s'éveille dans le sommeil. Par exemple, il m'arrive de me dire, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain.
Ouais.
Alors que je dors. Et de la même façon, les rêves sont quelquefois si prégnants que dans la journée, je mets un certain temps à me départir d'une certitude. J'ai fait des rêves récurrents sur une maison en Bretagne que j'adorais absolument. Cette maison était si présente, j'y étais si bien, qu'au réveil, je me disais, mais elle existe, elle m'appartient, elle est quelque part. Et il me fallait vraiment plusieurs heures pour que ça décante.
Ouais.
Et comme c'était un rêve récurrent, quand je retrouvais la même maison, 3 semaines plus tard, dans le même rêve, je me disais, mais comment ai-je pu croire une seconde que cette maison n'existait pas?
Un rêveur, c'est un enfant qui ne grandit pas, vous le vivez comme ça, vous?
Non, un rêveur, c'est un homme ou une femme qui rêve et qui, en l'occurrence, pratique une fonction vitale. Si vous ne rêviez pas, vous mourriez.
Et vous savez qu'il y en a qui rêvent pas, qui se souviennent pas de leurs rêves.
Ah, ça c'est autre chose. Ouais. Se souvenir ou ne pas se souvenir des rêves, c'est presque une affaire d'habitude. Moi, je m'en souviens parce que je les note.
Ouais.
Si je ne les notais pas, je ne m'en souviendrais pas. Et dès qu'on commence à les noter, non seulement on s'en souvient, mais il arrive qu'à l'intérieur même du rêve, on se dise, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain matin.
Ouais. Et ça peut faire peur, les rêves aussi. Hein.
Bah bien sûr, ah oui. C'est ce qu'on appelle un cauchemar.
Marion Cotillard m'avait dit qu'elle avait peur de ses rêves quand elle avait tourné Inception. Vous l'avez vu ce film Inception?
Oui.
Bah c'est un peu ça votre livre, Daniel Pénac. Oui. On n'y comprend rien à un moment.
Mais c'est-à-dire que
c'est vrai,
les rêves vous font peur parce qu'ils remplissent tout l'espace mental. Dans un rêve, il n'y a pas de place pour la rêverie. On ne rêvasse pas dans un rêve.
Ah oui.
On est entièrement coincé entre des images qui procurent des sensations et il n'y a de place pour rien d'autre. Donc c'est forcément très oppressant, ou d'ailleurs très réjouissant si c'est un rêve heureux.
Il y a cet hommage à Fellini dans ce livre, Daniel. Un hommage d'ailleurs très large, vous en parlez tout au long du livre, c'est presque un fil rouge. Fellini, grand rêveur qui notait et dessinait ses rêves. Il était d'ailleurs dessinateur avant d'être cinéaste. Et d'ailleurs, en 1939, il arrive à Rome pour devenir dessinateur de presse, dessinateur humoristique caricaturiste.
Oui, ce qui n'était pas une chose facile, parce qu'il était en plein fascisme, hein, en plein mussolinisme, et c'était très dur. Il fallait qu'il fasse des dessins humoristiques qui contournaient les interdits. C'était un exercice à la fois très créatif, mais surtout il rêvait. Et un jour, il a rencontré un psychanalyste jungien, qui s'appelait le professeur Bernhardt, et c'est ce professeur Bernhardt qui lui a dit « Mais puisque vous savez dessiner et peindre, dessinez donc vos rêves dans le même temps que vous les notez. » Ce qui nous a donné un magnifique livre, en italien, « Il libro dei sogni », en français, « Chez Flammarion, le livre de mes rêves », et c'est magnifique. Ce livre est une merveille, mais absolue, oui.
Bon, merci beaucoup Daniel Pénac d'être revenu dans la librairie francophone. La loi du rêveur est parue aux éditions Gallimard. De quoi avez-vous rêvé cette nuit ?
Il y a deux ou trois nuits, j'ai rêvé d'un livre, d'un roman d'Akira Mizubayashi que j'avais lu, là, donc deux jours avant. Des musiciens se sont arrêtés par la police et un petit violon est brisé. Et l'âme de ce violon est brisée. Le narrateur répare ce violon sa vie durant. Et dans mon rêve, ce violon me parlait avec la voix d'Akira Mizubayashi.
Ah oui, carrément, ça va loin, ça va loin.
Voilà.
Bon, merci Daniel. Bonne nuit. Bonne nuit prochaine. Et on part à Paris, au cœur de Montmartre, avec une célèbre chanteuse canadienne qui vit aujourd'hui en Suisse.
Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Et voici Diane Tell qui nous a rejoint devant ce moulin de la galette. Bonjour Diane.
Bonjour.
Je vous embrasse Diane. Nous étions avec vous à la fête des vignerons en Suisse, à Vevey. Vous étiez artiste bénévole. Qu'est-ce que vous en retenez de cette affaire-là?
Oh bah, un immense moment. J'ai adoré le spectacle de Daniel et Finzi Pascal. Je l'ai vu trois fois. J'ai participé à la parade de nuit. Je suis ravie.
En coccinelle.
Voilà, j'étais en coccinelle. Je suis ravie d'avoir posé ma candidature parce que vraiment, ça a été un moment inoubliable dans ma vie.
Et ça a surpris tout le monde de voir Diane Tell comme ça dans la parade nocturne. En coccinelle, bénévole comme tout le monde, pendant trois semaines.
Ouais, ouais. Bon, j'ai pas fait tous les soirs parce que je travaillais un peu quand même.
Oui.
Mais on s'arrangeait entre nous. On était 3-4 coccinelles pour deux costumes, donc on s'est arrangé. Mais ouais, c'était un très grand moment, et très agréable et rencontrer des gens très sympathiques. J'ai rencontré Shania Twain.
Ah oui, il y avait Shania Twain.
Ouais,
carrément.
C'est drôle parce qu'on est né. Elle est de Timmins, moi de Val d'Or, donc c'est des régions très proches au Canada. Et il a fallu attendre la fête des vignerons pour se rencontrer.
Bon, vous sortez un nouvel album, Haïku. C'est un album doux et rebelle à la fois. Il y a une chanson un peu rebelle, on va en parler tout à l'heure.
D'accord, oui, avec plaisir. Ben oui, c'est un peu on est fait de ces matières-là, en fait. Hein. Il y a des heures douces et puis il y a des heures moins douces.
Bon, avant l'interview, vous allez nous jouer un extrait de cet album, Haïku, justement. On va entrer dans le moulin de la galette. On a une autorisation, il paraît même qu'on nous a réservé la table d'Alida.
Oh, je l'ai rencontrée. Elle était extraordinaire. Bon. C'était une femme extrêmement généreuse, en tout cas pour les jeunes, les petites jeunes qui arrivaient comme moi lorsque je l'ai rencontrée.
Bon, on va lui rendre hommage au passage.
Avec
on y
plaisir.
Va ? Allons-y.
La librairie francophone. Emmanuel Guérard.
Alors, je crois que la table d'Alida est là. Il y a une table avec des personnes qui sont en train de manger. On va leur faire l'animation.
Voilà, très bien. Où est-ce qu'elle se mettait, Dalida, lorsqu'elle venait chanter ?
C'est là, apparemment, parce qu'il y a une plaque sur la table.
Oui.
Dalida, ce lieu ne t'oubliera jamais.
Oh, je vais m'asseoir face à la plaque.
Allez, ok. Voilà, Diane Tell, vous êtes bien installée ?
Oui, je suis bien installée. J'ai Dalida dans le cœur.
Avec
je vous ai dans les yeux.
C'est vrai, je vous ai aussi dans les yeux. Avec cet extrait de ce nouvel album, le titre c'est Haïku. Vous êtes à la guitare, ici au Moulin de la Galette, Diane Tell.
Et vers ta chaleur fixe le sexe de l'ange, ouais, lune au plafond, soleil de mes nuits, l'or dans mes rêves, drapelle de pensée pour toi. Tes textes aux personnages piquent mon corps engourdi. Ma langue brûlante, flèches impudiques, insomnie départagée. Je t'envoie une photo d'imaginer l'effet que ça te fait. Fébrile au bas mot, ventre chaud, mer intérieure. Plongée libertine, vois mon horizon. Porte ouverte, on ouvre le feu. Lance-moi quelque chose, une rose, corde à te prendre. Étoiles à la patte, désir sans espoir. Mais tu puisses meurs, sois fine assouvie. Haïku.
Vous êtes magnifique. Merci, Diantel.
Merci à vous.
C'est très émouvant d'être face à vous, comme ça, de vous voir jouer. Je suis même pas à un mètre de vous. C'est une grande émotion. Cette chanson, elle est d'une grande émotion, comme votre album, comme toutes les chansons que vous avez toujours faites. D'abord, l'émotion, Diane.
Bah oui, en fait, pour ces chansons un peu douces comme ça, un peu, ce sont des tourneries. C'est vrai que l'émotion passe et tant mieux. Tant mieux.
Bon, cet album, il a été enregistré entre le Québec, la France et la Suisse. Oui. C'est un album simple avec des instruments à cordes, on l'a entendu, un peu comme ça, hein. C'est vraiment quasi comme ça ce titre sur le disque. Oui. Et votre voix, comme si vous faisiez un album de jazz.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas fait de chœur, on n'a pas fait de trucs complexes. Comme on fait dans la pop, où on met des effets, on met du vocordeur, du autotune, ou je sais pas
un
quoi.
Un peu trop en ce moment, oui.
Non, on a fait, on a enregistré l'album live en studio avec la voix et les musiciens. Donc oui, c'est un album contemporain, je dirais, même un peu progressiste, mais avec un enregistrement très old school.
On ressent une forme d'hommage. Un hommage à la solitude, peut-être un peu à la mélancolie. Est-ce que c'est un état qui vous porte, Diantel, la mélancolie? Est-ce que ça vous apaise, paradoxalement?
Si j'étais un iceberg, tout ce qui est submergé serait mélancolie.
C'est vrai?
Et solitude, oui. Mais non, c'est une mélancolie, pas nécessairement joyeuse, mais une mélancolie fièrement portée.
Mélancolie de la nature aussi. La nature, elle est présente sur cet album. Et vous qui vivez dans les montagnes suisses aujourd'hui, on vous sent pleinement imprégné de la nature. Alors déjà avec le Canada, évidemment. Mais c'est une forme de retraite d'être parti en Suisse, comme ça, dans un petit village.
Bah, j'ai toujours rêvé d'habiter à la montagne, dans les Alpes, si possible. Mais ça aurait pu être dans la Cordillère des Andes, pourquoi pas. Mais enfin, dans un pays francophone. Donc, le Valais est un canton francophone. Je suis à 1000 mètres, dans un petit village de 200 âmes, qui fait partie d'une commune un peu plus grande, bien sûr. Et c'est toujours été un rêve pour moi d'habiter dans ce coin du monde. Alors, j'ai réalisé un rêve. Après, la nature, oui, c'est vrai que la nature, par rapport aux qualités qu'il faut pour monter sur scène, il faut quand même être assez fier, avoir un peu d'ego pour monter sur scène et puis s'installer devant des milliers de gens et puis se trouver un peu intéressant. Et donc ces montagnes énormes là nous font trouver notre humilité, même si elle est enfouie au fond de soi. Très enfoui sous l'ego.
Dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Chat. Vous êtes un peu comme un chat. Vous allez à tâtons, comme ça, vous retombez sur vos pattes tout le temps. Et vous avez cette douceur, cette indépendance, cette solitude, cette affection, peut-être.
Oui, je crois que j'ai beaucoup de chance. Vous l'avez raison de le dire. Et je le dirai même une ou deux ou trois fois. Car effectivement, j'ai pris pas mal de risques dans ma vie et je suis à chaque fois retombée sur mes pattes. Que ce soit des risques physiques, par exemple, de traverser toute l'Afrique en monomoteur ou des risques professionnels en enregistrant, par exemple, sur cet album un spoiler de 7 minutes avec une chanteuse qui arrive à 1 minute 30, ce qui est impossible de nos jours. Donc ce sont des risques qu'on prend, mais quand ça fonctionne, la récompense est là et le chat est très content quand il trouve son petit pot de lait là.
Oui, c'est vrai.
Au bout de sa long journey.
Le chat, c'est la douceur. Et puis, il y a un peu la rébellion. J'en parlais tout à l'heure, Diane Tell, avec Evolène, où vous vous présentez comme mi-ange, mi-démon, quelque part, et vous avez des coups de gueule, vous le dites dans cette chanson.
Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est plus de la folie, en fait. C'est qu'à un moment donné, on perd les pédales, quoi. On devient un peu fou pour des raisons, des fois personnelles, ou parfois c'est plutôt universel. On en a marre, on a envie de claquer une porte, on a envie de tuer le chien, on a envie de balancer la
bagnole. Oui, c'est ça,
bagnole.
Vous dites tuer le chien.
Voilà, mais aucun animal n'a été blessé durant l'enregistrement de cet album, je dois le dire. Mais on a envie de planter la voiture dans un mur, on a envie de taper dans, tu sais, un peu. Et voilà, ouais, c'est ça, c'est une chanson un peu sur ce pétage de plomb, on va dire.
Et vous dites qu'avant, votre voix était un instrument qui servait la mélodie. Aujourd'hui, vous chantez les mots. Et vous le notez, ça, d'ailleurs, chez les artistes contemporains. Le style, les textes sont de plus en plus importants. Et beaucoup d'artistes aujourd'hui percent grâce à leurs textes.
Bah, heureusement, parce que, heureusement, oui, on s'intéresse un peu plus aux mots, moi-même, la première. Mais le public, par contre, lorsqu'il écoute beaucoup de musique en anglais, ne fait pas très attention au texte. Il suffit de traduire le texte de la chanson moyenne qui passe en radio, et on se rend compte que c'est pas ce qui compte le plus chez les anglo-saxons, mais il y a quand même de très grands auteurs, n'est-ce pas, Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell et bien d'autres. Donc moi, mon rêve, c'est quand même de réaliser ces chansons où le texte est beau. Le texte est beau, mais le texte sonne aussi. Donc, je voudrais pas compromettre l'un pour favoriser l'autre.
Et vous n'avez jamais fait, même lors de votre immense succès dans les années 80. Comment vous l'avez appréhendé, ce succès-là, dans les années 80? Comment vous l'avez conservé, je dirais, Diane Tell? Vous en êtes où avec ça?
Bah, d'abord, ça a commencé par un échec, puisque j'ai écrit cette chanson pour participer au Festival international de la chanson de Spa. J'ai été éliminée au premier tour.
Oui.
Donc, ça a été un moment un peu humiliant pour la jeune fille de 19 ans que j'étais. Donc, mais ceci, j'étais un homme. Finalement, il est sorti au Canada, a eu beaucoup, beaucoup de succès. Après, en France, avec les radios libres. Et la chanson a été portée par... Maintenant, on est à la... troisième génération, pratiquement, si on prend des générations de 10-15 ans, on va dire 12-15 ans. Donc, c'est une chanson, maintenant, qui vit sa vie. Elle me porte, maintenant, beaucoup. Elle me porte, déjà, financièrement, faut être honnête. Comme j'ai eu l'instinct de conserver les droits d'auteur et les droits d'édition et phonogramme. Donc, cette chanson, évidemment, m'appartient, et c'est un bonheur absolu. Puis, elle me porte aussi auprès du public, puisqu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais qui ne savent pas que je suis la petite chose qui est derrière. Voilà.
C'est vrai que tout le monde l'aime, cette chanson. Même les jeunes, aujourd'hui, en parlent. Vous pourriez en faire un couplet, là, à la guitare? Vous pourriez faire ce cadeau?
Oui.
C'est vrai?
Oui, oui. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde. Où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis femme, et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là, non. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires, oui, d'amour démodé, n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé. De tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, si j'étais un homme, je serais romantique. Oh, oh, oh. Mmh.
Merci beaucoup, Diane Tell, dans la librairie francophone, ici à Montmartre, à Paris, en plein cœur de Paris, au Moulin de la Galette. Merci Diane, je suis très émue. Je le vois dans vos yeux que vous l'êtes aussi un petit peu.
Ouais, bah c'est sûr de chanter dans les lieux pareils et chanter pour vous en live, comme ça.
Vous êtes adorable. Merci beaucoup, Diane Tell.
Merci à vous.
Merci. Votre nouvel album Haïku est disponible en CD et en version numérique sur les plateformes d'écoute et de téléchargement. Et de Montmartre, on part sur l'île Intense. Vous allez vivre l'ambiance réunionnaise avec nous.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
La librairie francophone estivale à La Réunion pour ce club francophone artistique à Matouta, sur les hauteurs de Saint-Joseph, à côté du point le plus austral de l'île et donc de l'Union européenne. On est avec Apollo et TM, auteurs réunionnais de bandes dessinées. Les Chroniques du Léopard, notamment, c'est eux, parus chez Dargaud. On en avait parlé ensemble dans la librairie francophone. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Apollo ?
Ah ben, ça va très bien.
Bonjour, TM.
Bonjour.
Alors, vous avez un invité, c'est le club francophone. Vous avez eu carte blanche et vous avez choisi d'inviter Sergio Grondin, qui est un grand artiste réunionnais né à Saint-Joseph, où nous sommes juste à côté. Bonjour Sergio.
Bonjour.
Vous êtes un conteur, mais pas un conteur comme les autres. Vous avez décidé de promouvoir la culture réunionnaise, en tout cas de la porter, de l'expliquer, avec une version et une attitude très contemporaine.
Mais disons que dans le questionnement du conte d'aujourd'hui, moi ce qui me manque c'est la réalité, quoi. C'est ce qu'on vit tout simplement, donc j'ai fait le choix de recréer une mythologie à ce pays qui en manque cruellement, c'est ça. C'est mon positionnement d'artiste, oui.
Et Apollo et TM, avec les Chroniques du Léopard, c'était aussi un conte, avec des histoires inspirées du réel, avec l'histoire de la Réunion aussi, que vous analysez, que vous réinterprétez un peu, mais des personnages comme Raymond Barre, comme les frères Vergès, qui ont été dans un lycée, ici à la Réunion, et que vous incluez finalement avec les autres personnages de votre récit.
Ah oui, parce qu'en fait, l'intérêt, c'était de faire intervenir la fiction dans l'histoire. Ça, c'est une chose intéressante à faire. Je devais faire vrai et pas forcément réel.
Alors, c'est vrai, Apollo, que sur 200 pages, on y est à l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion. On y découvre la vie quotidienne au bord de la mer, dans les terres, des vies complètement différentes, des climats différents aussi, et puis la culture qui est toujours là, avec notamment la musique. Et il y a le Maloya. Alors quand on connaît la Réunion, quand on connaît le Maloya, on l'entend presque en lisant votre bande dessinée.
Le personnage qu'on suit dans notre histoire, c'est un jeune créole qui revient au lycée à La Réunion dans les années 40. Et en fait, c'est une redécouverte de son identité et dans ce cheminement identitaire. Et c'est pour ça que j'aimais bien qu'on aille voir Sergio, parce que Sergio parle très bien de ces choses-là. Il y a la redécouverte d'une musique originelle à La Réunion, qui est le Maloya, qui est la musique qui vient de Madagascar, du Mozambique, et qui est la musique à l'origine des anciens esclaves. Et qui était une musique un peu marginalisée par la société coloniale, qui la mettait un peu de côté, etc. Et qui est en même temps une vraie musique populaire, avec un rythme ternaire, et qui dit les choses fondamentales de la vie des Réunionnais. Et donc, dans notre BD, à un moment donné, notre jeune héros, il arrive, on est au bord de la plage, du côté de l'ouest de l'île, et il assiste à ce qu'il appelle un bal marron, puisque le mot Maloya n'est pas encore tout à fait utilisé à ce moment-là, et il découvre cette musique qui est la musique du petit peuple et qu'il va retrouver là, en face de lui.
Sergio, justement, vous vous questionnez, vous, sur le Maloya. Vous avez même créé un spectacle nommé Maloya en 2018, et vous dites que c'est une rencontre un peu ratée pour vous. À 15 ans, vous avez préféré endosser la culture hip-hop plutôt que la culture musicale de la Réunion. Et c'est Daniel Waro, alors que vous avez 15 ans, qui change tout dans votre esprit et qui vous oriente finalement vers cette musique-là.
C'est une chanson, c'est un cabaret de Daniel auquel j'assiste un peu par hasard, puisqu'à cette époque-là, je fréquente les scènes hip-hop, et puis qu'on se retrouve finalement un soir devant un cabaret de Daniel, et où cette voix que j'avais entendue d'une manière lointaine, et que je croyais être celle d'un CAF, parce que souvent, quand on entend Daniel pour la première fois, on croit que c'est un CAF, et en
Qu'est-ce
fait...
Qu'est-ce que c'est un CAF?
Un noir. Donc et puis quand on se retrouve devant ce bonhomme avec sa touffe de cheveux bouclés, son cul de bouteille en qualité de lunettes, et puis cette chanson de Daniel s'appelle Timichel. Oh t'es Timichel, là va où t'allais à la Réunion, les poules. Et Timichel, pour moi, enfin c'est pas que pour moi, c'est mon papa. Et mon papa est coupé de canne. Et donc d'entendre quelqu'un chanter la culture de mon père, donc d'entendre chanter ces journées de forçats qui passent dans les cannes, et ben évidemment, ça change toute ma relation à la culture. Et à mon père, et au Maloya.
Apollo et TM, dans votre bande dessinée Chronique du Léopard, être sur cette île donne à vos personnages une forme de protection. Se sent-on protégé, Apollo ?
C'est un drôle de truc de vivre dans une île parce que, alors à La Réunion par exemple, il y a l'idée que rentrer à l'intérieur de l'île, dans les montagnes, dans les hauts, c'est l'ultime refuge. C'est là où allaient se cacher par exemple les esclaves qui étaient en fuite des propriétaires. Et en même temps, La Réunion, comme beaucoup d'îles, enfin La Réunion en particulier en tout cas, c'est aussi le point d'aboutissement de gens qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que ça a toujours été le carrefour du monde. Les Réunionnais sont d'origine indienne, malgache, africaine, européenne. Ils viennent de partout pour aboutir, échouer, réussir, enfin peu importe. Donc c'est toujours, l'île, c'est toujours cette espèce de double aspect de lieu de refuge où on vient se cacher, où on vient se couper du monde, mais aussi de là où on part pour conquérir le monde. Donc je trouve ça assez intéressant.
Bon Sergio, on est à l'auberge des prairies.
C'est ça.
À Matuta.
Exactement.
Pour venir ici, il faut savoir qu'on a eu une route sinueuse, qu'on a traversé des champs de canne, incroyables, des champs immenses. On domine la mer, il y a une vue absolument sublime. Et on est dans une sorte de village un peu reculé, un peu retiré du monde pour le coup. On va entrer dans l'auberge et on va poursuivre cet entretien ensemble.
Avec plaisir.
Avec la musique de Daniel Warreau, tiens. Allons. Cadeau.
Petit oiseau dit, il descend de la mer pour nous retravailler. Oui, nous les chômeurs. Petit Ouattalais, mais ça prend l'avion pour quitter mon pays. Il appelle La Réunion.
Allez, on y va.
Bon, il y a 400 personnes ici.
Il y a 400 personnes. On entend le margouilla crier un petit peu. C'est un lézard qui mange les moustiques, il est parfait ce margouilla-là. Et il a un cri très caractéristique, hein. On dirait un oiseau, mais en fait non, c'est le lézard.
Tout à fait, ça fait.
Vous faites bien le margouilla, c'est bien. Voilà, on est arrivé à table avec la cuisine créole qui fait pleinement partie de la culture, Apollo.
Ah oui, la cuisine créole, c'est une chasse gardée. Hein. C'est-à-dire que les Réunionnais ont un goût pour la cuisine qui est absolument extraordinaire. Et alors, je ne dis pas ça par chauvinisme, mais c'est une cuisine succulente. Vraiment.
C'est vrai, ouais. Je confirme.
Je ne sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais on va manger quoi ce soir ?
Bonbons piment. Ça, c'est vraiment une spécialité locale. Donc des bonbons piment, mais qui finalement ne sont pas très pimentés. On a pensé à vos palais qui sont fragiles.
Vous pouvez y aller avec le piment. Hein.
Ah, super.
Du jus de fruits.
Un jus de fruits fait maison, dans lequel il y a de la sapotille ou du corossol, pour les connaisseurs, la goyave, de la papaye et mûre. Ah. Voilà, ouais.
Bon, dans votre bande dessinée Apollo et Thème, il y a Lucien, à un moment, qui dit « On est au bout du monde, ici ». Mais sa copine lui dira « Ici, c'est un volcan. On croit que tout le monde est endormi, mais ça gronde par en dessous. Mm-hmm. » Sergio Grondin.
Ben évidemment que ça gronde. Enfin, ça gronde d'un point de vue, comment on appelle, géologique. Ça gronde d'un point de vue tellurique. Ça gronde d'un point de vue social, d'un point de vue artistique. Enfin, c'est un pays qui est, c'est une terre qui est en mouvement, quoi, continuellement. Donc, heureusement que ça gronde. Et il faut que ça continue à gronder.
Il y a une tradition de nous donner une musique à écouter au soleil, une plage et un plat. On va commencer par la musique. Qui se dévoue ?
Ah, un morceau.
Apollo, je le sens bien. On a eu le Maloya tout à l'heure avec Daniel Warreau. Apollo.
Alors, moi je mettrais Maloya Montizane de Michou avec Alain Peters à la basse, parce que c'est un morceau que je trouve vachement bien, justement, et assez étonnant, puisque le Maloya, dans le texte de la chanson, est utilisé comme un moyen pour guérir contre, justement, la sorcellerie, le mauvais sort, etc. etc.
Je suis méga sensible avant l'arrivée, Gramoun, la tisane n'a pas bon. Dans la case, la chasse, nous n'est pas tous les ans. Je suis mais va trouver la raison. Maïla, il veut pipousser dans la terre, nana, la poison. La rivière, si où veut la pêche, la malheur, là aussi, la pluie camaron.
Voilà, sur cette dans musique, Maloya, avec TM, un plat ou une plage, vous choisissez quoi, vous ?
Moi, je préfère la plage. Et
donc, le plat, ce sera pour Sergio.
Bah, moi, la plage, c'est forcément l'Ermitage. Donc, qui se trouve entre Saint-Gilles et la Saline. C'est une plage très populaire, peut-être une des rares encore, on peut se baigner en fait maintenant, où moi j'allais avec ma famille tous les dimanches pratiquement, et où on sortait le fameux pique-nique créole, où on sortait tout, y compris la musique, enfin, tout. C'est un lieu qui m'en rappelle plein de choses, voilà.
Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit.
Donc on est au plat. Allons-y, Sergio.
Alors au plat, je vais faire un passage de relais. Vous avez demandé à ma femme, qui n'est pas invitée dans l'émission, mais exceptionnellement, vous avez dû demander ce que.
Allez, allons-y.
Ce qu'on mange à la maison quand je reviens de voyage.
Pascal, allons-y. Faisons ça en famille.
Ah oui, forcément, saucisse frite et un petit peu de bread avec du riz. Forcément.
Saucisse frite, qu'est-ce que c'est? Quel genre de saucisse?
Ah, des saucisses de porc, fumées ou pas, selon l'humeur du moment.
C'est très belge, ça, en fait.
Non, non, mais les saucisses réunionnaises, enfin, mon cousin qui est là pourra en parler mieux que moi, mais je veux dire, ne sont surtout pas des saucisses françaises ou belges.
Évidemment. Bon. Merci beaucoup, Apollo et TM. Chronique du Léopard est paru chez Dargo. Merci, Sergio Grandin. Vous êtes en tournée régulièrement. Vous avez un petit extrait à nous offrir, là, rapidement.
Oui, le texte, en fait, que je dis à mon fils, qui permettra d'écouter la langue. Sahel, mon enfant, mon zocri, mon gâté, mon zézé, mon petit crime, mon l'aimé. Si tant de façon, dit l'amour sans façon, nena, si tant de souvenance, qu'aime peine née, nous nena déjà. Neuf mois, l'eau cachette coquillée d'un vent moment, le temps guette l'éternité d'un petit instant. Baba, t'y danse la vie d'un vent en coup de bourrante, papa lisse sous langue, l'air fine tard, la fine tente, en pout tête, et tes moments de l'eau de lait, tant en pouton tente, donne bras papa en palanqué.
Et en résumé, et en traduction.
Et en traduction, ça dit juste l'attente de ce petit bonhomme qui vient, qu'on a attendu pendant 9 mois. C'est ça. Ça dit, baba, tu danses la vie dans le ventre, un coup de bourrante, tu danses la vie dans le ventre, à coup de pied. Papa, lis sous langue, les affines tard, la fine temps. Papa, il s'impatiente, il est tard, il est temps.
Merci beaucoup, Sergio, merci pour cette découverte culturelle, découverte de ce coin de la Réunion aussi pour la librairie francophone sur toutes les radios francophones publiques à travers le monde. Merci à vous.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Pauline Laverdure à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons en Grèce avec Joël Dicker dans le monde du livre de la jungle avec Marlène Jobert, au pays des parfums et des odeurs avec Gaston Paul Effa et le maître parfumeur Dominique Ropion. Nous serons aussi en Suisse dans la maison de Charlie Chaplin. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à vous.